Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinécure saison 2 épisode 4. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. Cette saison, on change un peu la donne et je vais pousser un peu plus loin mes recommandations en reliant les 4 films que je vous propose chaque mois avec une sorte de fil rouge. Ce mois-ci, on va s'intéresser au pouvoir, à ce qu'il procure et à ce qu'il provoque en nous, pas en regardant du côté de la vertu, mais bien du vice. Ce mois-ci, on va s'intéresser à la corruption. Concept intéressant que celui de corruption puisqu'il peut prendre différents atours. D'abord, bien entendu, il y a la corruption que l'on connaît tous, qui fait les gros titres des journaux encore aujourd'hui, omniprésente dans le cinéma, que ce soit dans Les Incorruptibles de Brian De Palma ou bien dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, celle qui colle le mieux à la définition même du mot et qui est un soudoiement. C'est celle que l'on retrouvera dans beaucoup de films de réalisateurs que l'on pourrait qualifier de politiques, Costa Gavras bien entendu, mais aussi Yves Boisset pour la France, Elio Petri en Italie ou encore Sidney Lumet aux États-Unis. Mais au-delà de cette application basique de la corruption, on retrouve un type de corruption plus fin, plus problématique encore, celle de l'esprit. La corruption des mœurs est aussi une corruption psychologique, une perversion qui va détourner notre âme et notre esprit du droit chemin. Il y a beaucoup de films dont j'aurais pu vous parler, à commencer par l'excellent Chinatown où Jack Nicholson tente tant bien que mal de naviguer une intrigue politique qui le dépasse, dans un univers visuel que tentera de reprendre avec une certaine réussite LA Confidential, excellent thriller basé dans un Los Angeles noir et dangereux. Plus récemment en France, on trouve Enquête sur un scandale d'État, un film au rythme un peu étrange qui vous berce et semble vous emmener au cœur du pouvoir français, dans les arcanes d'une police qui fraye avec l'illégalité. Le film est l'héritier d'un autre type de film dont Henri Verneuil s'était fait le champion pendant un temps, avec notamment 1000 milliards de dollars et son étude du trafic d'influence. Bref, les films qui parlent de corruption, peu importe quel type de corruption d'ailleurs, ne manquent pas. Il y a toutefois quelque chose qui les unit tous, comme je l'ai dit en introduction, c'est le lien que ces films entretiennent avec la notion de pouvoir. D'ailleurs, je vous ai parlé du président de Henri Verneuil, encore lui, dans la saison 1 de Cinécure, épisode 12, qui s'il est un film qui parle de pouvoir, est bien entendu aussi un film qui parle de corruption. Au rang des grands classiques, il y a bien sûr Basic Instinct qui parle clairement de perversion, avec pour victime le personnage interprété par Michael Douglas. Verhoeven est d'ailleurs un maître en matière de corruption de l'esprit puisqu'on retrouve ce thème dans énormément de ses films. Pour l'heure, nous allons prendre d'autres chemins, puisque nous allons tout d'abord aller explorer le New York des années 70 aux côtés d'un Al Pacino au commencement de sa carrière, puis prendre la direction d'un Naples vérolé par le trafic d'influence, où l'on rencontrera des personnages à la fois inattendus mais aussi malheureusement très actuels, puis retour à New York, mais en faisant un saut dans le temps avec Manhattan à la fin des années 50 et une plongée dans le journalisme à scandale. Et enfin, on remontera à bord de notre machine à remonter le temps pour se rendre à la Restauration, dans un Paris en pleine mutation, à la frontière entre Ancien Régime et Révolution industrielle, avec déjà un avant-goût de ce que deviendra notre système. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à rafler le pactole, à trahir vos amis et à dénoncer une cabale médiatique, parce que c'est parti. Serpico de Sidney Lumet, durée 2h10. Frank Serpico, un jeune homme intègre et intelligent, sort de l'école de police et commence à travailler à New York. Il découvre un monde corrompu et pourri et tente de mettre en garde ses supérieurs. Alors que ceux-ci semblent prendre tout leur temps pour agir concrètement, Serpico est soumis à d'énormes pressions de la part de ses collègues, qui ne voient pas d'un bon œil la présence d'un flic intègre. Une recommandation à placer sous le signe de l'injustice, injustice à laquelle fait face Serpico bien sûr dans ses pérégrinations d'un service à l'autre, où sa réputation semble le précéder, mais avant toute chose, injustice que de ne vous avoir jamais parlé de Sidney Lumet jusqu'à présent. Cinéaste à la carrière incroyable, Lumet parle vraiment de corruption dans ses films, très différemment de la façon dont Verhoeven, mentionné dans l'introduction de cet épisode, le fait. Plus romantique sans aucun doute, et ça transparaît dans Serpico justement. Un personnage qui aurait parfaitement pu être un héros chevaleresque à l'image de Don Quichotte, le roman de Cervantes, qui est cité à de nombreuses reprises dans le film. Le personnage, magistralement interprété par Pacino, traverse l'entièreté du long métrage sans que sa boussole morale ne varie ne serait-ce que d'un centimètre, et ce, malgré les nombreuses confrontations auxquelles il s'expose, que ce soit avec sa hiérarchie ou avec ses collègues véreux. Ce romantisme, qui est pour moi au cœur même du film, est appuyé par la musique de Mikis Theodorakis, qui avait déjà signé celle de Z de Costa Gavras. Par l'usage d'instruments et de sonorités bien particulières, comme la mandoline, la guitare, le violon, souvent avec une instrumentalisation dépouillée, il accompagne la solitude de Serpico, qui se sent de plus en plus isolé à mesure que le film avance.
I can't wait for Delaney to call, and I can't play their game anymore. I'm right in the middle. I can't take it.
Frank, you mean to say the commissioner didn't get in touch with
you? No, he didn't get in touch with me. Not a word. No investigation, no undercover work, nothing.
I have no idea, Frank.
Well, Captain, I think it's only fair to tell you. I've been to outside agencies. I'm going to go to more if I have to.
What outside agencies? Holy mother of God. Frank, we wash our own laundry around here.
Oh, yeah?
Now, you could be brought up in charges for this.
I always thought so, but the reality is that we do not wash our own laundry.
Serpico.
It just gets dirty.
You are in trouble.
I don't care if I'm in trouble. I don't care who gets it anymore, including myself. Because if I have to go to outside agencies to get somebody to hear my story, well, where am I going to go?
You hear me, Serpico? Stay away from
where
me.
Where am I going to go?
You just wait until you hear from me.
I've been waiting for a year
and
a half.
What are you talking about? Frank.
That's not enough.
I'll get back.
But where am I going to go? It's my life, you fuck!
Ce personnage est le fait de plusieurs hommes. D'une part bien sûr de Serpico lui-même, puisque ce policier a vraiment existé, mais aussi de Peter Maas, qui a écrit la vie de l'agent dans son bouquin, puis bien entendu de Norman Waxler et de Waldo Salt, les deux scénaristes. On retrouve d'ailleurs le deuxième à l'écriture de Midnight Cowboy, un autre chef-d'œuvre de cette époque-là que je vous recommande chaudement et qui apparaîtra peut-être dans un prochain épisode de Sinécure. Mais Frank Serpico, c'est d'abord et avant tout Al Pacino, bien évidemment. Je ne vais pas vous expliquer le monument qu'est Pacino, sa présence magnétique et son talent d'acteur ne sont plus à prouver à personne. Il est ici au début de sa carrière, juste après Le Parrain, et il livre à mon goût l'une de ses meilleures performances. Tous les changements de look, qui ont d'ailleurs contraint l'équipe à tourner à l'envers, en commençant par les scènes de fin pour terminer par les toutes premières scènes, sont absolument savoureux et apportent quelque chose en plus pour Pacino qui s'en nourrit et semble créer à chaque moment de la carrière de Serpico un je ne sais quoi, une variation dans son jeu, tout en gardant l'esprit de base du scénario qui veut que le policier, on l'a vu, ne varie pas dans sa trajectoire. Mais là où le personnage est admirablement bien écrit, c'est justement dans ses subtilités. Car s'il ne fait pas de doute que Serpico est intègre, il n'en est pas pour autant sans aspérité. C'est un personnage complexe dont la rectitude vient régulièrement écraser la sociabilité. Pour le dire plus concrètement, son obstination se fait souvent au détriment de ses relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. C'est un personnage qui est contraint, qui n'envisage aucune autre possibilité, qui manque totalement de flexibilité quand il s'agit de ses repères et de ses valeurs. La réalisation de Lumet vient, elle, en contrepoint de cette rigidité, elle est virevoltante parfois, souvent mobile, et accompagne ce sentiment d'invariabilité en imbriquant les différentes périodes de la carrière de Serpico de la manière la plus brutale et en même temps la plus naturelle possible. Tout est dit dans le film, et ce que le film ne dit pas, il le montre. Le résultat, c'est qu'une coupe sur le papier, qui pourrait vous sembler contre-productive, nous emmène en fait à faire des sauts dans le temps, des ellipses, qui font que le film coule de source. Cela est aussi dû à la collaboration de Lumet avec l'une des monteuses les plus stylistiques de l'industrie, Didi Allen, qui avait auparavant travaillé sur des films comme The Hustler ou encore Odds Against Tomorrow, un grand classique, et qui travaillera plus tard sur un autre chef-d'œuvre de Lumet, Dog Day Afternoon, et sur d'autres classiques comme The Breakfast Club de John Hughes. La narration par ellipse de Serpico lui doit énormément. Côté casting, on retrouve John Randolph, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent de Sinécure, pour Seconds de Frankenheimer, mais aussi Tony Roberts qui joue un rôle clé, ainsi que Jack Kehoe, un des seconds rôles les plus connus de Hollywood, aux côtés de F. Murray Abraham qui fait une apparition courte, mais décisive. Pacino et lui partageront une nouvelle fois l'écran 10 ans après dans Scarface. Si vous aimez les personnages romantiques aux valeurs inamovibles et le New York crasseux des années 70, alors Serpico vous plaira. Il est disponible sur Canal+ en streaming. En 1973, on pouvait voir dans le cinéma français « Je ne sais rien mais je dirai tout » de Pierre Richard, « L'aventure du Poséidon » de Ronald Nimi et « Moyen à vouloir des sous » de Jean-Yann. Le mani sulla città, titre français Main basse sur la ville de Francesco Rosi, durait 1h41. Après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier populaire, le promoteur immobilier Eduardo Nottola est pris en tenaille entre les médias qui le tiennent pour responsable et le conseil municipal qui ne veut pas être associé à la catastrophe. Une commission d'enquête se met en place, les ennemis politiques attaquent et bientôt, les amis aussi placent leurs pions. Personne ne parle de corruption mieux que le cinéma italien des années 60 et 70. Plongé dans un climat de violence insoutenable qui culminera par la mort du politique Aldo Moro, assassiné puis abandonné dans le coffre d'une voiture à Rome, le pays traverse des années pour le moins compliquées que le cinéma national ne se prive pas de relater à travers une série de fictions toutes plus acérées les unes que les autres. Le bal avait été ouvert par La Dolce Vita, qui sous Césaire et sa réputation de film débonnaire et nonchalant, fait passer un message anticapitaliste, et 3 ans plus tard, la même année que celle de la sortie du Guépard, le chef-d'œuvre que j'abordais dans le tout premier épisode de Cinécure, si vous vous en souvenez bien, voilà que sort le film de Francesco Rosi, Les Mani sulla Città, Main basse sur la ville en français. Véritable concentré de ce que le cinéma transalpin faisait de mieux, invitant Rod Steiger dans le rôle principal, notamment, mais surtout présentant l'élite comme profondément pourrie, le film mise sur un effet d'une simplicité déconcertante et qui mériterait d'être rappelé dans toutes les écoles de cinéma. Pour mieux dénoncer un système global, Francesco Rosi va s'intéresser à une tragédie locale. Pas de grand discours donc sur comment le monde fonctionne et comment le néolibéralisme a fait dérailler les grandes instances du monde occidental, mais quelques plans introduisant les enjeux, puis un conseil municipal dont la tenue pourra parfaitement se calquer sur n'importe quelle assemblée politique, qu'elle soit cantonale, régionale, nationale ou même internationale. En d'autres termes, Rosi parle à un niveau presque personnel pour mieux parler de l'universel et cela fonctionne à merveille. Il y a fort à parier qu'avant de faire Il Divo, un autre film italien sur la corruption dont je vous avais parlé dans l'épisode 12 de la première saison de Cinécure, Paolo Sorrentino a vu et certainement revu Les Mani sulla Città, titre français Main basse sur la ville.
Un'altra cosa, De Vita. Perché prendete questa posizione contro di me? Perché? Lo fate per confondere le idee alla gente per la vostra politica?
Voglio solo fargli capire chi siete voi e chi sono quelli come voi.
Chi sono io? Io sono uno che rischia il suo tempo, i suoi soldi e la sua fatica per fare sparire questa catapecchia fedenti.
Ma non è vero niente. I fatti sono altri. Voi siete un fuorilegge. La legge stabilisce un piano regolatore e poi ve ne infischiate. La legge stabilisce che non bisogna fare danno alla gente e poi gli togliete le case, gli togliete il lavoro. E non mi importa niente di dove vanno a finire. Perché certo non vanno a finire in case come queste.
Io non sono un benefattore.
E chi lo pretende? Ma voi non vi fermate davanti a niente. Ci sono stati dei morti per il crollo, un bambino ha perso le gambe e voi niente. E tutto questo solo per riempire i soldi le vostre tasche. Questi sono i vostri sistemi e contro questi sistemi io combatto, non contro i palazzi. A me basta che i palazzi siano costruiti dove e come vuole la legge e non dove e come volete voi.
Rosi décrit avec son film un système que l'on commence à bien connaître, qui a faim et qui se moque de savoir ce qu'il va avaler du moment qu'il mange. C'est notamment la raison pour laquelle les victimes de l'incident qui ouvre le film ne sont presque jamais vues ni entendues. Rosi nous explique clairement que l'important se joue ailleurs et que les conséquences de cet incident se gèrent dans les hautes instances où le problème est devenu politique mais qu'il a perdu toute sa réalité. En résulte un film coup de poing, mais sur lequel on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent que le strict nécessaire, ce qui le rend redoutablement efficace. Rajoutez à ça la prestation de Rod Steiger, que l'on ne s'attend absolument pas à retrouver ici, mais qui est fantastique de bestialité contenue, de violence parfaitement enfermée. Puis bien sûr, la musique de Piero Piccioni, absolument parfaite, comme souvent avec le compositeur. Et enfin, la photographie de Gianni Di Venanzo, ni plus ni moins que l'homme qui a fait la photo de 8,5 de Federico Fellini, et vous obtiendrez, je crois bien, un chef-d'œuvre hautement politique, toujours d'actualité hélas, et très très clairvoyant sur le système qu'on nous a longtemps vendu comme le moins pire, mais qu'il serait bien temps, je crois, de remettre en cause. Si vous aimez les films en noir et blanc hyper actuels, les propos politiques de gens en colère et les années 60 en général, alors Les Mani sulla Città de Francesco Rosi est pour vous. Il est disponible sur la Cinéthèque pour 2,99€. En 1963 en France, on pouvait aller voir au cinéma Les 55 jours de Pékin de Nicholas Ray et Andrew Martin, Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil et Le Guépard donc de Luchino Visconti. Sweet Smell of Success, titre français Le Grand Chantage, durée 1h36. Sidney Falco est un agent de presse gouailleur, prêt à tout pour réussir. Il vit dans l'ombre de J.J. Hunsaker, un influent chroniqueur manipulateur qui peut faire ou défaire une carrière en une publication. Alors que Susie Hunsaker, la petite sœur un peu naïve et faible de J.J., tombe amoureuse de Dallas, le guitariste d'un quintet à la mode, le chroniqueur cherche à tout prix à les séparer et engage Falco pour accomplir cette basse besogne. Falco monte alors un plan dont il espère tirer profit pour enfin jouer dans la cour des grands. La première chose à dire sur ce film n'est pas à propos du film mais de son réalisateur, Alexander McKendrick, américano-écossais. McKendrick a notamment réalisé The Lady Killers, la version de 1955 bien entendu, et avait réussi à se faire une place au panthéon des réalisateurs importants, ce qui l'a amené à réaliser justement Sweet Smell of Success, titre français Le Grand Chantage. Le film sera malheureusement un échec au box-office et éloignera à tout jamais McKendrick du poste de réalisateur, puisqu'il acceptera par la suite un poste au California Institute of the Arts, au département des films, poste qu'il occupera presque jusqu'à sa mort. Je vous raconte ça parce que quand on s'intéresse au cinéma de patrimoine, il n'est pas rare de voir de telles situations, des films que l'on considère comme incontournables et qui ont été boudés à leur sortie, parfois empêchant une carrière comme c'est le cas ici. Si Serpico abordait le thème de la corruption de manière frontale, en parlant clairement de flics véreux, Sweet Smell of Success est un film qui parle avant tout de pouvoir, d'un pouvoir détourné, obtenu à grands coups de calomnie, et de l'usage qui est fait de ce pouvoir. A ce titre, le personnage de J.J. Hunsaker, qui n'est pas le personnage principal du film, est très intéressant puisqu'il représente ce pouvoir dénaturé, malsain et surtout omniprésent. Dès les premières minutes du film, J.J. est là, son autorité, ses exigences, la crainte qu'il inspire, et c'est tout le talent de Tony Curtis qui interprète Sidney Falco, pour le coup, le personnage principal, qui va installer ce personnage à travers sa relation avec lui. Aura-t-il le courage de l'affronter? Réussira-t-il à se le mettre dans la poche? La relation qui relie les deux hommes, qui sont en réalité non pas les deux faces d'une même pièce, mais bien la même face, juste à deux moments différents de leur carrière respective, est tout bonnement passionnante, et à mon avis, c'est là que réside tout l'intérêt du film. Car au fond, ce qui est en jeu, c'est bien la corruption, la perversion du personnage de Sidney. Jusqu'où est-il prêt à aller par loyauté, par obéissance à celui qu'il a désigné comme son maître?
Are you an actor, Mr. Falco?
That's what I was thinking. Are you, Mr. Falco?
Well, how did you guess it, Miss James?
He's so pretty, that's how.
Mr. Falco, let it be said at once. There's a man of 40 faces, not one. None too pretty. And all deceptive. You see that grin? That's the charming street urchin face. It's part of his helpless act. He throws himself upon your mercy. He's got a half dozen faces for the ladies. But the one I like, the really cute one, is the quick, dependable chap. Nothing he won't do for you in a pinch. So he says. Mr. Falco, whom I did not invite to sit at this table tonight, is a hungry press agent and fully up to all the tricks of his very slimy trade. Match me, Sidney. Not right this minute, JJ.
À l'heure où le fascisme semble de mise, où la nuance n'est plus du tout une valeur cardinale de nos politiques ou de nos sociétés, ce film a forcément valeur de mise en garde, puisque l'allégeance réclamée par le personnage de Burt Lancaster n'est pas sans rappeler celle qu'exigeait, et continue de le faire d'ailleurs, un Donald Trump par exemple. Cette relation, les deux acteurs, Tony Curtis d'une part, on l'a vu, et Burt Lancaster d'autre part, lui donne corps avec maestria. Le coup de maître a été de choisir Curtis pour jouer Falco, lui qui était un sex symbole à l'époque, ce qui a d'ailleurs rendu le tournage dans New York compliqué, et qui interprète ce qui s'apparente le plus à un rat, et de prendre Lancaster pour jouer J.J. Hunsaker, un véritable loup. Leurs physiques sont complémentaires, l'autorité de J.J. Hunsaker n'ayant aucun mal à être transmise par le physique imposant de Burt Lancaster, qui en plus d'être une force de la nature, est sans cesse cadré dans des endroits dans lesquels il semble être à l'étroit. Ses mouvements sont calculés, économisés, et son ton ne monte jamais. Il n'a pas besoin de faire de bruit, il n'a pas non plus besoin de s'agiter, tout le monde s'agite autour de lui. En face de lui, Curtis est beaucoup plus électrique, il court, il parle, il semble être hors d'haleine constamment, il est aussi plus petit, moins altier. Si le New York de Sweet Smell of Success était une jungle, Lancaster serait le lion et Curtis un suricate. Et on va s'arrêter là pour les métaphores animales. Entre ces deux hommes, on retrouve Susan Harrison qui a eu une carrière pour le moins courte. 3 ans après Sweet Smell of Success, elle tournera dans Key Witness, qui sera son dernier film au cinéma. Elle est pourtant d'une fébrilité et fragilité poignante ici, dans l'ombre de ces deux géants qui étaient Curtis et Lancaster, et elle n'a pas à rougir de sa prestation. A noter que c'est Lancaster qui a produit le film en partie, à travers la société Hecht Hill Lancaster, et l'acteur souhaitait que l'écrivain Ernest Lenham, qui avait écrit l'article à la base du film, réalise ce dernier. Mais Lenham n'était pas du tout à l'aise avec cette idée et se fit porter pâle, prétextant des douleurs d'estomac. Le film sera un échec au box-office, on l'a vu, et pour Lancaster, la faute en retombe à Lenham qui aurait pu, selon lui, en faire un bien meilleur film. À la première, il ne manquera d'ailleurs pas de lui rappeler de façon musclée, allant même jusqu'à le menacer, ce à quoi Lenham, sans se démonter, lui répondra « Vas-y, défoule-toi, j'ai besoin d'argent ». N'en déplaise à Lancaster, Sweet Smell of Success, son petit tour de force en guise de générique, ses personnages qui sonnent justes et sa critique acerbe du système, de la presse à scandale et des opinions qui font et défont la réputation des personnalités, sont devenus, avec le passage des années, un incontournable. Bien sûr, l'iconique musique d'Elmer Bernstein, véritable monument hollywoodien, qui a notamment rythmé les 7 mercenaires ou encore les 10 commandements, n'y est pas pour rien. De même, la photographie de James Wong Ho, qui avait aussi assuré la photo de Seconds, dont j'ai pu vous parler le mois dernier. Si vous aimez les performances d'actrices et les propos modernes, alors Sweet Smell of Success, le grand chantage en français, est fait pour vous. Il est disponible sur Apple TV pour 3,99€. En France, en 1957, on pouvait voir Sissi Impératrice de Ernst Maichka, Porte des Lilas de René Clair et Les Nuits de Cabiria de Federico Fellini. Illusion perdue de Xavier Giannoli, durée 2h29. Lucien est un jeune écrivain qui aspire à devenir romancier ou poète. Sa relation particulière avec la marquise Louise de Bargeton l'amène à Paris, où il découvre la haute société, mais aussi l'encloisonnement des différentes classes sociales. Rejeté par l'aristocratie, il se tourne vers le journalisme et la bourgeoisie. On quitte New York, on a passé pas mal de temps ce mois-ci, mais on reste dans la presse et on rejoint le 19e siècle, plus exactement la Restauration, pour aller nous intéresser de près aux turpitudes d'un jeune écrivain wannabe. Immense roman, l'un de ceux qui composent la comédie humaine, du non moins immense Honoré de Balzac, Illusion perdue était un sacré morceau. Un de ces morceaux dont on imagine très bien qu'il ait pu être déclaré inadaptable par de nombreux auteurs et producteurs. Et pourtant, Jacques Fieschi, ou Fieschi, je prononce à l'italienne peut-être à tort, y est arrivé, et avec Xavier Giannoli et Yves Stavridès, il livre ici une adaptation magistrale pour faire de ce bouquin qui était un classique, un film qui, à n'en pas douter, le deviendra. Mais la force absolue de ce travail, ce qui lui a sans aucun doute valu le César de la meilleure adaptation, c'est justement que ce n'est pas une vulgaire décalcomanie de ce que le livre est en tentant de le plaquer à l'écran, mais bien une œuvre cinématographique à part entière qui utilise le langage du cinéma pour raconter cette histoire universelle de celui qui voulait être, mais qui s'est perdu en chemin, corrompu par ses rencontres, son désir de vengeance et l'attrait du faste et de la luxure. Avec une réalisation virevoltante, énergique, voire même tonique, et l'utilisation parcimonieuse mais toujours justifiée d'une voix off souvent impertinente, Giannoli nous emmène dans un Paris lointain, en temps, mais malheureusement très proche, en préoccupation. Les tenues, le vocabulaire sont différents, mais l'actualité est, elle, brûlante. Il y a notamment un tour de force à peu près à mi-film, que je peux vous raconter sans risquer de vous divulgâcher quoi que ce soit. Alors que Lucien est arrivé à Paris, le voilà qui rencontre par hasard un journaliste qui va le rencarder sur les modes de fonctionnement de ses pairs et par là même sur la société. En visitant un théâtre, les voilà qui déambulent dans les coulisses et rencontrent des actrices, des bienfaiteurs, etc. La voix off prend le relais pour nous exposer comment la société est structurée et profondément véreuse et corrompue. Au fond, tout s'achète. Cet extrait fait peut-être une minute en tout, et il y a pour moi tout le film contenu là-dedans. Et c'est tellement actuel qu'en fait c'en est vertigineux. Ce serait déjà très bien et suffisant si le film n'avait que ça à nous proposer, mais ce n'est pas tout. Tout aussi vertigineux que son propos, il y a le casting qui est tout bonnement à tomber par terre, servi par Cécile de France, Jeanne Balibar, une apparition savoureuse de Gérard Depardieu, l'une des toutes dernières apparitions de Jean-François Stévenin, impeccable, une découverte en la personne de Salomé de Vels, pour ma part bien sûr, et un trio aussi inattendu qu'irremplaçable, Benjamin Voisin, fantastique en protagoniste ambitieux et dévoré par une ville dont il ne mesure pas la voracité, Vincent Lacoste, toujours, qu'on adore détester, et Xavier Dolan, dont je suis loin d'être fan, mais qui livre ici une prestation pas loin de la perfection. J'imagine que c'est à mettre au crédit du directeur de casting, Michael Lagens. De l'autre côté de la caméra, on peut à tout le moins saluer le travail de Christophe Bocarne, que je ne connaissais pas. Ça va être difficile de l'ignorer dans les années à venir, tellement la photographie d'Illusion perdue est sublime. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a frappé dès les premiers plans. J'ai été soufflé par la beauté et l'utilisation du cinémascope, un procédé de prise de vue qui comprime à la prise de vue et qui étire lors de la projection. Le but, c'est d'avoir une image très large, et si ce que je vous raconte est approximatif, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a une volonté derrière ce procédé. Xavier Giannoli est en train de nous dire quelque chose. Son drame est certes intimiste, c'est l'histoire d'un homme ambitieux qui va se perdre en route, mais c'est aussi un drame aux proportions épiques. Son protagoniste va se perdre, certes, mais il sera surtout dépassé par la largeur du monde dans lequel il atterrit, pas préparé pour la proportion que va prendre sa vie. et le résultat fonctionne non seulement dans la narration mais aussi esthétiquement, à l'image d'ailleurs de tout le film qui ne sacrifie jamais la beauté pour son propos ou inversement. C'est ce genre d'attention qui font qu'Illusion perdue s'inscrit dans la grande tradition du grand cinéma français, au même titre qu'un Cyrano de Bergerac par exemple, mais surtout dans le grand cinéma tout court.
Je vais te raconter une histoire. Un jour, deux critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade en Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. » Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules.
Toujours sur deux niveaux de lecture, alliant esthétique et message, le film parle plus jamais que de son époque, mais aussi du rapport étrange que l'art entretient avec la critique, et vice-versa, et donc, par extension, de celui que le réalisateur entretient avec la presse spécialisée. Enfin, c'est un film qui parle merveilleusement bien d'argent en général et de corruption en particulier. Au final, la vérité absolue du film, c'est que tout s'achète, et en particulier, la vérité. Si vous aimez les films en costume, ou films d'époque, les propos cinglants et les problèmes d'argent de Balzac qui constituent 90% de son œuvre, alors Illusion perdue vous plaira. Il est disponible en streaming sur Canal+. En 2021, sortez sur les écrans français Dune de Denis Villeneuve, Bac Nord de Cédric Jiménez et Aline de Valérie Lemercier. Vous pouvez ranger vos bakchiches et fourguer vos bifetons dans des enveloppes sans destinataire jusqu'à nouvel ordre, parce que c'en est fini de cet épisode spécial corruption. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer. La corruption est partout, alors ouvrez l'œil, et si vous connaissez des films qui parlent de corruption et que vous les aimez beaucoup, comme par exemple Training Day d'Antoine Fuqua, venez m'en parler sur Instagram ou Twitter, vous m'y trouverez en tant que Charles Eddy. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. C'est très important pour le référencement et ça aide à le faire connaître. Je vous encourage aussi à parler de Cinécure à un maximum de gens autour de vous. On est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé et produit par moi-même, Charles-Edouard Boisselin, et distribué par Vaisseau Hypersensas, dont je remercie les membres pour leur patience et leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure, où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd, vous la trouverez dans mon profil et en description de cet épisode. On se retrouve à la fin du mois pour une nouvelle interview Cinexplore pour finir l'année en beauté. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !